Bonjour, au micro Idrissa Seydoudia pour cette édition matinale du Monde aujourd'hui. Ici aux États-Unis, deux policiers dont l'état a été qualifié de stable ont été blessés par balle et un suspect interpellé à Louisville dans le Kentucky où se déroulait mercredi soir une manifestation antiraciste liée à la mort de l'Africaine-Américaine Breonna Taylor lors d'une perquisition en mars, a indiqué la police. Le président Donald Trump a dit qu'il priait pour les deux policiers blessés et que le gouvernement fédéral qui les appuie est prêt à les aider. Des coups de feu ont retenti jeudi soir à Louisville, provoquant un mouvement de panique lors de heurts entre manifestants et forces de l'ordre lourdement armées, après l'inculpation indirecte d'un seul des trois policiers impliqués dans la fusillade ayant causé la mort de Breonna Taylor. Ce policier est poursuivi seulement pour mise en danger de la vie d'autrui en raison de ses tirs qui ont traversé l'appartement de voisin de la victime. Les deux autres policiers blancs n'ont pas été poursuivis, l'usage qu'ils ont fait de la force ayant été jugé justifié. Une décision scandaleuse et insultante, selon Ben Crump, l'avocat de la famille de Breonna Taylor. Le procureur général du Kentucky, Daniel Cameron, lui-même un Africain-Américain, a annoncé cette décision d'un grand jury lors d'une conférence de presse alors qu'une foule de manifestants dénonçant les violences policières et les discriminations raciales se rassemblait dans les rues, donnant lieu à des échauffourées avec des policiers anti-émeutes. Un couvre-feu a été décrété à 21h locale. Il y a eu plusieurs arrestations dès l'après-midi. Manifestations également dans d'autres grandes villes, dont New York, Boston, Washington et Philadelphie. En Guinée et selon l'AFP, le président Alpha Condé a donné mercredi des accents guerriers et communautaires à la campagne pour la présidentielle du 18 octobre, à laquelle il brigue un troisième mandat contesté par l'opposition. Cette élection n'est pas seulement une élection, c'est comme si nous étions en guerre, a déclaré M. Condé, dont les propos en langue malinké par visioconférence à ses partisans à Siguiri, dans son bastion électoral de l'est du pays, ont été diffusés mardi soir par la télévision nationale. Dans son premier discours de campagne, le 19 septembre, également en malinké, M. Condé avait dit aux électeurs de Cancan, selon l'AFP, « Si vous votez pour un candidat malinké qui n'est pas du RPG, le parti présidentiel, c'est comme si vous votiez pour Selou Dalène Diallo, le principal opposant. Dans la région du Fouta, il n'y a pas d'autre candidat que Selou », avait-il ajouté, dans une allusion au Fouta Diallo, le fief électoral majoritairement peul de M. Diallo. Ces propos ont été dénoncés par les avocats français du FNDC, une coalition anti-Condé, dans un courrier à la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. En Côte d'Ivoire, une dizaine de partisans de l'ancien chef rebelle et ex-premier ministre Guillaume Soro, candidat à la présidentielle du 31 octobre, ont été libérés mercredi, a appris l'AFP auprès de leurs proches. Une vingtaine d'entre eux, dont cinq députés, avaient été arrêtés en Côte d'Ivoire fin décembre 2019, après le retour avorté de M. Soro à Abidjan. La plupart sont accusés de tentatives d'insurrection. Le Conseil constitutionnel a rejeté le 14 septembre la candidature de M. Soro en validant entre autres celle du président sortant Alassane Ouattara à un troisième mandat controversé. La pandémie de COVID-19 a déjà contaminé plus de 5 millions de personnes en Europe, où la France a emboîté le pas à l'Angleterre mercredi et a durci les restrictions dans sa capitale et plusieurs autres grandes villes. Les forces nord-coréennes ont abattu un sud-coréen qui avait fait défection dans les eaux territoriales de Pyongyang avant d'asperger son corps d'essence pour le brûler par crainte d'une contamination au coronavirus, a indiqué jeudi l'armée sud-coréenne. La suite de nos informations. Au Mali, les forces armées maliennes ont perdu 3 hommes dans une attaque terroriste à Boulkessi dans la région de Mopti, attaque qui a aussi fait des blessés. Ces derniers ont été évacués sur Sévaré avec le soutien de la MINUSMA. À Bamako, la mission de la CDAO a annoncé la levée des sanctions contre le Mali à partir de ce vendredi. Cette annonce a été faite par le médiateur de l'organisation, la Goodluck Jonathan. De Bamako, notre correspondant Kassim Traoré.
Hier après-midi, une mission de patrouille des FAMA du poste du G5 Sahel a fait l'objet d'une attaque terroriste complexe à Boulkessi dans la région de Mopti. Le bilan provisoire est de 3 morts, 4 blessés, un véhicule brûlé. Les FAMA blessés ont été évacués sur Sévaré avec le soutien de la MINUSMA. Dans un communiqué, le ministère de la Défense et des anciens combattants adresse ses sincères condoléances aux familles des défunts en leur assurant la pleine solidarité de la nation dans cette douleur. Douloureuses circonstances et invite les populations maliennes à continuer d'apporter leur soutien indispensable aux FAMA. Par ailleurs, le médiateur de la CDAO qui séjourne actuellement à Bamako dit que la levée des sanctions contre le Mali n'est pas un problème. Selon Goodluck Jonathan, la CDAO ne veut aucune sanction dans aucune partie de la communauté. C'est vraiment dommage que cela arrive et la CDAO est impatiente de faire la déclaration de levée des sanctions contre le Mali. C'est le président du Ghana en personne qui le fera après la cérémonie d'investiture du vendredi prochain. Il faut signaler que la délégation de la CDAO qui séjourne actuellement à Bamako rencontre ce matin les militaires au pouvoir avant de rendre une visite de courtoisie au président de la transition Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Au Nigeria, au moins 25 personnes ont été tuées dans l'explosion d'un camion-citerne rempli de pétrole à Lokoja, dans l'état de Kogi, dans le centre du pays. Selon la police locale, le chauffeur avait perdu le contrôle de son camion et percuté d'autres véhicules venant en sens inverse. Le point avec Gilbert Tamba à Abuja.
Selon des témoins, l'accident s'est produit aux premières heures de mercredi matin dans un quartier très animé de la ville de Lokoja, capitale de l'état de Kogi. Le camion chargé d'essence a eu une panne de frein. Il s'est écrasé sur d'autres véhicules et a explosé près de l'école polytechnique de Kogi. Le porte-parole de la police à Lokoja affirme que plusieurs personnes, des élèves de l'école, ont été brûlées et réduites en cendres. Les accidents graves impliquant des camions-citernes sont courants sur les routes nigériennes. 4 personnes ont été tuées le 21 juin dernier à Lagos après plusieurs explosions impliquant 4 véhicules. Des camions-citernes transportant le pétrole étaient entrés en collision avec un autre pétrolier transportant du gaz naturel. La semaine dernière, une flotte de 5 véhicules a été incendiée lorsque le chauffeur de notre camion-citerne a perdu le contrôle de son véhicule.
Le Trésor américain a sanctionné mercredi des individus et des entreprises liées à un riche homme d'affaires proche du président russe Vladimir Poutine, ainsi qu'au service de sécurité de Moscou. Abdourahman Dia.
8 personnes et 7 entités liées à Yevgeny Prigozhin et au service fédéral de sécurité sont visées par les sanctions. Le Trésor américain justifie ces mesures par les activités de Prigozhin en République centrafricaine et le FSB accusé d'ingérence dans les élections américaines. Les dernières sanctions visent 2 entreprises minières et 3 employés liés à Prigozhin en République centrafricaine. Prigozhin a été déjà la cible de Washington, qui l'a sanctionné en 2018 et 2019 pour son soutien à des mercenaires du groupe Wagner, accusés d'être intervenus militairement en Libye et d'avoir soutenu l'ancien dirigeant soudanais Omar el-Béchir. Prigozhin est également soupçonné d'avoir financé des activités en ligne sur Internet visant à soutenir le candidat Donald Trump lors des élections américaines de 2016. Yevgeny Prigozhin dispose d'un réseau de partisans pour répandre son influence politique et économique maligne dans le monde, a déclaré le secrétaire au Trésor Stephen Mnuchin dans un communiqué.
9 000 employés de la ville de New York devront prendre une semaine de congé sans solde entre octobre et mars afin d'économiser 21 millions de dollars et faire face à l'assèchement des recettes fiscales municipales causées par la pandémie de coronavirus. Nathalie Barge.
L'annonce a été faite mercredi par le maire démocrate de New York, Bill de Blasio, qui avait annoncé la semaine dernière une mesure similaire pour lui-même et 500 employés qui lui sont directement rattachés. Employant 300 000 personnes au total, la ville estime à 9 milliards de dollars le trou budgétaire sur 2 ans, résultant de la chute des recettes fiscales dues aux mesures de confinement. Au printemps, le maire avait évoqué de supprimer 22 000 postes municipaux au 1er octobre et de réduire certains budgets. La menace de vastes suppressions d'emplois semble s'éloigner grâce aux négociations avec les syndicats. De Blasio demande aussi au Parlement de l'État de New York de pouvoir emprunter 5 milliards de dollars. Au niveau fédéral, la Chambre des représentants à majorité démocrate a approuvé un plan de soutien aux États de 3 000 milliards de dollars. Ce plan a été rejeté par le Sénat, dominé par les Républicains.
La Minute Éco, Annick Talani.
Le Fonds international de développement agricole financera à hauteur de 33 milliards de francs CFA la deuxième phase du projet d'appui au développement des filières agricoles au Cameroun. Ce projet s'étendra de 2020 à 2026 et sera mis en place dans 4 régions pour accompagner 64 coopératives productrices de riz et d'oignons. L'objectif est de réduire les importations de riz qui ont coûté 231 milliards de francs CFA en 2019. La justice algérienne a condamné à de lourdes peines de prison pour corruption les frères Kouninef, proches de l'ex-président Abdelaziz Bouteflika. Le tribunal a également ordonné la saisie de leurs biens en Algérie et à l'étranger. Les 3 hommes d'affaires étaient poursuivis pour trafic d'influence, blanchiment d'argent, obtention d'avantages indus, détournement de fonciers et de concessions et non-respect des engagements contractuels dans la réalisation de projets publics. La famille Kouninef est propriétaire du groupe QGC, spécialisé dans le génie civil, l'hydraulique et le BTP. Pour terminer, la multinationale Aura Group, basée à Lomé au Togo, va augmenter de près de 33 milliards de francs CFA son appui à une trentaine de PME et industries dans les pays de l'UMOA. Ces fonds sont un crédit octroyé par la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO. Ils devraient créer plus de 800 emplois et promouvoir l'intégration économique et financière en Afrique de l'Ouest.
Les sports à présent avec Yacouba Ouédraogo.
Bonjour à tous. Le Soudan tient sa première victoire contre le Tchad. Dans un match amical disputé hier à N'Djamena, les crocodiles du Nil se sont imposés 3-2 avec des buts signés Mohamed Abdulrahman, Yasser Mouzamil et Moaz Alkoz. Les buts tchadiens ont été inscrits par Yahya Haroun et Bachir Saïd. Les deux équipes s'affronteront de nouveau ce vendredi 25 septembre dans le cadre de leur préparation pour les prochaines échéances éliminatoires de la CAN 2021 en novembre. Jorge Paulo Costa Almeida est le nouveau sélectionneur de la Guinée équatoriale. 4 ans après son départ de la tête du Gabon, Jorge Costa prend la place du Français Sébastien Millet. À moins de 2 mois du retour des éliminatoires de la CAN 2021, le Portugais fera face au Ghana en amical le 12 octobre en Turquie, avant sa double confrontation en novembre face à la Libye. La Guinée équatoriale enregistre 2 défaites dans son groupe de qualification pour la CAN 2021. Le Marocain Ayoub El Kabi fait son retour au Wydad Athletic Club. Il était libre de tout contrat depuis son départ de la Chine. Le meilleur buteur et vainqueur du Charles 2018 revient ici au WAC où il avait été déjà prêté en 2019. À 26 ans, El Kabi aura l'occasion de refaire le Charles 2020 avec le Maroc en début d'année prochaine au Cameroun. Le WAC est toujours sans entraîneur depuis le départ de l'Espagnol Juan Garrido. Le Bayern Munich, sacré roi de la Ligue des Champions en août, poursuit ce soir son inlassable quête de titre contre Séville à Budapest pour une Super Coupe d'Europe qui devait signer le grand retour des supporters en tribune mais reste menacé par le Covid-19. Comme lors du Final 8 de la Ligue des Champions à Lisbonne à la fin de l'été, il y aura dans la capitale hongroise un immense favori sur la pelouse, le Bayern et ses stars, opposé à Séville, lauréat de la Ligue Europa en Allemagne le mois dernier. Les tribunes du flambant neuf stade Puskas de Budapest, l'une des 12 enceintes programmées pour l'Euro 2021, ne seront pas dégarnies pour la première fois depuis la fin de l'hiver. Un match européen rouvre ses portes à un public nombreux. Hier, 800 supporters bavarois ont rendu leur ticket pour Budapest et ils ne seront que 1300 selon l'UEFA à faire le déplacement. Du côté du FC Séville, 500 fans sont attendus sur les 3000 places initialement réservées par l'UEFA pour chaque délégation.
Idrissa Sidoulia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Burkina Faso, c'est la fin des dépôts de candidature pour les législatives du 22 novembre. Mardi, c'était la course contre la montre car les candidats et partis politiques attendent toujours la dernière minute pour effectuer les dépôts. Ils évoquent plusieurs raisons. L'inaccessibilité des services et les problèmes sécuritaires du pays. De Ouagadougou, notre correspondant Lamine Traoré.
Comment vous voulez qu'on fasse ? Il faut bien qu'on ferme un jour. Hein.
Ces mots prononcés par le président de la commission électorale marquent la fin des dépôts des candidatures pour les prochaines élections législatives. Dans la cour de la commission électorale, ils sont des centaines de personnes, membres de partis politiques, à être présents pour ce moment tant important. Tous ces partis attendent la dernière minute pour déposer leurs différentes listes.
Vous savez, en Afrique, ce qui nous tracasse beaucoup, c'est la notion du temps.
Godfroy Bama, directeur du siège du PRD, le parti pour le rassemblement et la démocratie.
Et avec nos candidats qui sont un peu en profondeur et avec la crise sécuritaire, cela est vraiment une difficulté qui est réelle pour le convoi des dossiers sur Ouagadougou.
La situation sécuritaire est aussi pointée du doigt par certains responsables politiques, surtout ceux du Sahel. Aziz Diallo est le député maire de Dori dans le Sahel.
Nous, pour constituer la liste de l'Oudala, il a fallu même que ce monde-là se déplace à Dori pour pouvoir faire des documents administratifs avant de nous les envoyer ici à Ouaga. C'est qu'on a l'impression qu'on est toujours à l'époque de la pierre taillée, quoi. Quand même, aujourd'hui, on doit pouvoir trouver des moyens, avec toute la technologie et tout ce qu'il y a, des moyens de simplifier ces procédures-là. On ne peut pas continuer à regarder tous les documents qu'on a mis. Mais il y a assez de documents ici pour sauver une forêt.
Le président de la CENI déplore cette situation de dernière minute des partis politiques. Ahmed Newton Barry.
Qu'est-ce que vous voulez dire? Pour l'instant, comme chaque année, c'est toujours la dernière minute. Hélas, que les partis se présentent. C'est ouvert depuis le 17, mais c'est aujourd'hui finalement que l'affluence atteint le record que vous voyez. Donc ça veut dire que évidemment, à partir de cet instant, on a fermé les portes, personne ne peut entrer. Maintenant, on va prendre tous ceux qui sont à l'intérieur. C'est vrai qu'on est parti pour toute la nuit.
152 partis politiques, 30 regroupements d'indépendants et 6 formations politiques prennent part à ces législatives prochaines. Jusqu'à ce mercredi soir, la commission électorale n'avait pas encore pu faire le point des différents dossiers de candidature reçus. Après les législatives, la réception des dossiers pour la présidentielle, elle est prévue pour le 28 septembre prochain. Lamine Traoré, Ouagadougou, VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 au Burkina Faso, à Ouagadougou, sur le 102.4 FM.
Au Sénégal, le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias, le CORED, a procédé ce mercredi à l'installation des membres du tribunal des pairs. Pour ce mandat de 3 ans, cette juridiction, composée en majorité de professionnels des médias en activité ou à la retraite, aura la tâche de réguler le secteur avec des prérogatives beaucoup plus larges. De Dakar, notre correspondant Sédina Abagui.
Lancé en 2014, le tribunal des pairs avait jusqu'à présent les mains liées dans plusieurs domaines. Mais avec le nouveau code de la presse, l'instance bénéficie d'un champ d'action plus large. Mamless Camara, journaliste et membre du tribunal des pairs depuis sa création, détaille la nouvelle approche.
Auparavant, le CORED était une association qui n'avait pas le droit de prendre des décisions et de les porter contre un journaliste, par exemple. Mais maintenant que les choses ont changé, les articles 53 et 54 du nouveau code de la presse donnent autorité au tribunal des pairs de suspendre des journalistes, de retirer des cartes et même de radier des journalistes pour faire en sorte que les journalistes restent dans une ligne éthique qui est celle recommandée.
La presse doit façonner les opinions, préparer les citoyens à opérer les bons choix et exiger des gouvernants le respect de leur engagement. C'est l'avis du journaliste Mamoudou Dior, président du CORED. Pour lui, cette posture donne aux journalistes une place centrale qu'il faut préserver.
Quelles que soient les circonstances, les professionnels du secteur restent encore attachés à leur indépendance et au droit du public à l'information. Nous suscitons forcément de la méfiance, parfois de la défiance et de la médisance auprès de certains. D'autres nous admirent et sont prêts à tout pour nous donner une information. Nous avons choisi la voie de l'autorégulation car nous sommes convaincus que cette démarche peut aider à tirer la profession vers le haut au plus grand bénéfice du public, notre raison d'être.
Du côté des autorités étatiques, on assure que le CORED répond à une volonté de responsabiliser les acteurs des médias qui ont exprimé le souhait d'avoir un organe de régulation autonome. Demba Faye, directeur de cabinet du ministre de la Culture et de la Communication, se dit optimiste.
Cette instance satisfait une forte attente des professionnels des médias qui, comme nous le savons tous, acceptent plus en matière d'honneur professionnel la juridiction de leur père. Cette volonté, un de vos distingués doyens, Mamlès Camara, l'avait rappelé lors d'une cérémonie similaire. En 2014, présidée par le chef de l'État, son Excellence Macky Sall, il affirmait qu'avec le tribunal des pairs, devrait s'ouvrir une nouvelle page dans la régulation du travail des journalistes, non pas par les pouvoirs publics ou une quelconque autre autorité, mais exclusivement par les professionnels du secteur eux-mêmes.
Après plusieurs années d'existence, le tribunal des pairs du Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias devrait franchir une étape avec ce nouveau mandat durant lequel il aura les coudées franches pour veiller au respect des bonnes pratiques dans les médias. Pour cela, l'instance pourra s'appuyer sur une équipe de 12 membres, dont 5 femmes et une batterie de sanctions pouvant aller jusqu'à la radiation du journaliste. À Dakar, Seydina Bagay pour VOA Afrique.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine dans Washington Forum, la 75e Assemblée générale des Nations Unies qui se tient à partir du 22 septembre. Cette année, les réunions se tiennent dans le contexte de la pandémie de COVID-19 et seront essentiellement virtuelles. Même si d'autres thèmes liés à la sécurité et au maintien de la paix seront abordés, cette urgence médicale mondiale occupera une bonne place dans les discussions. Comment mobiliser plus de moyens pour combattre la pandémie en Afrique? Comment s'assurer que l'Afrique ne sera pas lésée dans la distribution de futurs vaccins et traitements? Nous discuterons tout cela avec nos invités ce jeudi 24 septembre à 19h universel sur VOA Afrique et VOA Afrique. Au Nigeria, le gouvernement a approuvé l'ouverture d'une liaison aérienne entre Abuja et Kaduna à cause de l'insécurité croissante sur ce trajet de 180 km. Une compagnie aérienne va assurer la ligne Kaduna-Abuja pour les hauts fonctionnaires et les personnes fortunées. Une initiative qui suscite de vives réactions dans le pays, nous dit d'Abuja notre correspondant Gilbert Tamba.
La route Kaduna-Abuja est récemment devenue l'une des routes les plus dangereuses du Nigeria, avec des coupures de route menant des attaques régulières. On y fait également souvent état de kidnapping orchestré par des individus lourdement armés. Le trajet se situe aussi dans une région où le groupe Boko Haram est très actif. Mais la décision des autorités fédérales provoque des réactions mitigées au sein de la population, alors que le train qui circule sur cette route vient d'augmenter les frais de transport à 100%. Le capitaine Mohamed Bala Djibri est pilote à la retraite et ancien directeur au ministère de l'aviation civile.
Le choix des compagnies pour opérer dans un État n'a rien à voir avec la sécurité. La sécurité est dans les mains du gouvernement. Les compagnies sont à la recherche de l'argent. Elles sont libres d'opérer partout, entre deux points dans le pays. Donc c'est une bonne chose d'avoir des aéroports partout. Les gens pourront voyager s'ils ont la volonté de payer. C'est vraiment bien.
La route qui fait environ 180 km n'a pas pu être sécurisée par le gouvernement, obligeant de nombreux voyageurs à l'éviter. Une situation qui isole la ville de Kaduna et ralentit son économie. La route a une importance capitale reliant le sud au nord. Après la capitale fédérale, Abuja, située au centre du pays, s'inquiète l'activiste Fethi Wadiji.
I'm truly concerned and I'm worried that government cannot take care of the security of
that. Je suis réellement préoccupée et je m'inquiète que le gouvernement n'arrive pas à sécuriser cette route pour permettre aux Nigérians ordinaires de circuler librement. Cette route est l'une des plus importantes routes. Si les bandits et les kidnappeurs ont pris le contrôle de cette route, cela signifie que les activités économiques des populations vivant dans la zone seront affectées.
Un autre risque associé au voyage sur cette voie pour les voyageurs de la capitale du Nord est le nombre élevé des accidents de la route enregistrés depuis quelque temps. Pour Kabiru Adamo, consultant en sécurité, la décision du gouvernement vise certes à sécuriser des hommes d'affaires et des hautes personnalités qui ne veulent pas prendre tous ces risques. Mais les conséquences d'une telle initiative ne sont pas négligeables.
La conséquence d'une telle décision est qu'est-ce qui est arrivé au contrat social entre le Nigérian ordinaire qui n'est pas riche et pour certaines circonstances est obligé d'utiliser cette route et le gouvernement. Malheureusement, cela veut dire que la perception d'un Nigérian et que le gouvernement ne peut pas assurer ou respecter ce contrat social.
De nombreux voyageurs ont récemment exprimé leur colère face à l'augmentation de 100% des tarifs du train par le gouvernement nigérian, forçant la majorité à reprendre la route pour se rendre à Kaduna, malgré les menaces de sécurité. Gilbert Tamba, Abuja, VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, en direct de Washington, une fenêtre sur le monde.
Ici aux États-Unis, le président Donald Trump a déclaré avoir l'intention de promouvoir l'éducation patriotique dans les écoles américaines afin de protéger les enfants de l'endoctrinement par la gauche radicale qui, selon lui, considère les États-Unis comme un pays raciste. Reportage de Patsy Villacoswara, relaté par Nathalie Barge.
Selon le président Donald Trump, les troubles sociaux aux États-Unis ont leur origine dans les programmes enseignés à l'école.
Les émeutes de la gauche et le chaos sont le résultat direct de décennies d'endoctrinement de gauche dans nos écoles.
En réponse à des demandes d'inclure dans les leçons d'histoire des discussions sur le racisme et l'esclavage, M. Trump avait déclaré que les écoles endoctrinent les élèves en leur inculquant que l'Amérique est une nation méchante et raciste pour les rendre honteux de leur propre histoire.
En examinant chaque problème à travers le prisme de la race, ils veulent établir une nouvelle ségrégation et nous ne devons pas permettre que cela se produise.
Le président Trump veut que les écoles rétablissent des cours d'éducation civique, plus précisément d'éducation patriotique, selon ses termes. Rich Milner enseigne la justice raciale dans l'éducation à l'université Vanderbilt. Il dit que les programmes scolaires doivent inclure des discussions honnêtes sur l'histoire de l'esclavage et des droits civiques, ainsi que sur la façon dont le racisme affecte la société américaine aujourd'hui.
We need to have curricula.
Nous devons avoir des programmes ou avoir des possibilités de programmes qui montrent la vérité. Et la vérité est que nous avons beaucoup de travail à faire dans la lutte contre le racisme dans ce pays.
Alors que la question raciale est devenue un thème central à l'approche de la présidentielle de novembre, le président Donald Trump a qualifié le mouvement Black Lives Matter de symbole de haine et a nié l'existence d'un racisme systémique. Son rival démocrate, Joe Biden, a un point de vue différent.
Le péché originel de ce pays pèse encore sur notre nation aujourd'hui et parfois il nous arrive de l'ignorer. Nous allons de l'avant avec un milieu d'autres tâches dans notre vie quotidienne, mais il est toujours là.
Lors d'une conférence sur l'histoire américaine aux Archives nationales le 17 septembre, Donald Trump a annoncé qu'il signerait un décret portant création de la commission 1776, en référence à l'année de la déclaration d'indépendance, pour promouvoir l'éducation patriotique. Il a critiqué le projet 1619 du New York Times en référence à l'année où les premiers esclaves africains ont été amenés en Amérique, lui reprochant de servir la propagande anti-américaine.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, vous étiez en compagnie d'Edrissa Seboudia et de Michel Joseph à la mise en onde. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.